Arnaud Rabatini, hein, sa pièce Echoes, en ouverture de ce spécial consacré à la 5e Biennale internationale d'art numérique organisée par Electra et qui explore le thème hautement d'actualité dans le contexte de la pandémie, celui de la métamorphose, sous le commissariat de la sud-coréenne Do Won-chwa, représentante de la région invitée par cette édition, cette édition, soit l'Asie du Sud-Est, la Corée du Sud, la Japon. Et le titre de la Bien, Métamorphosis, réfère bien sûr au livre de transformation classique des changements, I Ching. Alors, avoir sur place 17 œuvres réalisées par 15 artistes et collectifs locaux et internationaux qui nous proposent une exposition d'ampleur immersive et spectaculaire. Alors, et voici donc un entretien avec un artiste local, Samuel Saint-Aubin, qui nous présente une œuvre fascinante. Et cet entretien sera suivi d'un compte rendu par Léna Guillot et Pierre Archambault. La 5e Biennale internationale d'art numérique, qui a pour thème cette année la métamorphose, a débuté vendredi passé. Alors, c'est une exposition d'ampleur qui réunit un grand nombre d'artistes d'ici et de l'international. Et vraiment, entre autres œuvres présentées dans le cadre de cette exposition, qu'on pourrait qualifier de spectaculaire, une œuvre des plus ingénieuses et captivante, intrigante même. Alors, il s'agit de l'œuvre d'art numérique de Samuel Saint-Aubin, qui vraiment s'adonne à un art numérique électronique, une œuvre titrée Prospérité. C'est toute une œuvre d'art qui est mise en scène pour qui a une mission très spéciale.
Oui, donc je peux vous décrire ce qu'on voit là, lorsqu'on se présente devant. D'abord, la machine s'active lorsqu'on est devant. Donc, elle va chercher un grain de riz qui se trouve au milieu de l'installation. Et puis, tout en sachant la direction du grain de riz, puisqu'on le sait, un grain de riz est plus long que large. Donc, une petite pince va se diriger en direction du grain de riz et puis la saisir pour la porter sur les deux feuilles qui se trouvent à l'extrémité, tout en gardant en gardant dans le code la direction du grain de riz. Donc, il y a 8 catégories et puis elle va le déposer dans une de ces 8 catégories-là. Donc, c'est un travail qu'elle fait indéfiniment jusqu'à temps que la feuille du centre soit vidée de ses grains de riz.
Alors, elle a tout un parcours à suivre, diverses consignes à suivre, cette machine, qui s'intéresse au grain de riz. Le grain de riz a toute une symbolique, hein?
Oui, effectivement. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'appeler la pièce Prospérité, puisqu'elle annonce la prospérité, justement, soit dans les mariages, aussi dans les maisons, pour qu'il y ait un esprit, une énergie positive. Donc, le nom vient de Prospérité, à cause du riz, symbolique.
Le riz qui représente, dans le monde asiatique, la fertilité et toute son importance. Alors, comment vous est venue cette idée? Parce que ce n'est pas la première fois que vous explorez les fruits et la disposition en série.
Oui, effectivement. En fait, c'est les aliments, mais aussi les objets du quotidien qui m'inspirent. En fait, c'est l'aléatoire de ces objets-là qui m'inspirent. Et puis le dialogue avec la machine qui essaie de comprendre cet aléatoire-là. Donc, pour moi, c'est un grand défi technique et puis c'est une source d'inspiration.
Alors, écoutez, ça tient quasiment de l'œuvre d'art lorsqu'on peut voir ces différentes séries créées par la machine. Vous avez dit quand même que c'est une machine qui ne suit que quelques consignes, qui n'est pas si complexe.
Ouais, c'est une machine qui n'est pas développée comparativement à celle qu'on retrouve dans nos usines agroalimentaires où le but premier, c'est d'être le plus productif possible, puis pour qu'au final plus d'argent en rente. Dans ce que celle que je présente, elle travaille lentement, puis c'est à l'encontre de ces grosses machines-là qui sont évoluées, puis qui mettent de l'avant justement la vitesse, à quel point tout ça doit aller vite. Et puis, donc, c'est un clin d'œil à cet univers-là de machines qui peut trier, qui peut calibrer, qui peut choisir pour nous, en fait, les aliments qu'on mange.
Alors, c'est un détournement, en fait. de fonctions, de machines dans le domaine de l'entreprise?
Oui, on pourrait dire ça. Ben, d'abord, c'est les machines m'inspirent. En fait, elles me donnent des idées.
Je suis donc à côté de l'artiste Samuel Saint-Aubin et nous avons assisté à une petite présentation dans le cadre de la visite de presse. Peut-être que mon collègue Pierre Archambault aura une question supplémentaire.
Oui, il y a un côté obsessif à cette œuvre-là. Est-ce que c'est courant, c'est récurrent dans votre œuvre, côté obsessionnel?
Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est le protocole de la machine qui peut être abrutissante. Là, c'est toujours de répéter les mêmes opérations, puis sans se fatiguer. Donc, c'est ce qu'on attend des machines, en fait. Puisque si c'était nous qui faisions ces gestes-là, on se fatiguerait rapidement, en fait. Et puis, d'ailleurs, je me suis prêté au jeu. Donc, maintenant, je fais des travaux en 2D. Du collage de grains de riz, du collage de grains de moutarde. C'est tout nouveau. Et puis, je me suis amusé à faire exactement ce que la machine fait. Donc, je me suis mis dans la peau d'une machine. Donc, j'ai fait un collage où il y a plus de 3000 petites graineries que j'ai déposées, installé un petit peu de colle pour que tout ça tienne en place. Et puis, encore une fois, dans une économie de mouvement, et puis j'ai dû penser à un protocole. Donc, quand il s'agit de travailler avec plusieurs éléments, bon, ben, il y a ça qui s'installe, soit si on travaille manuellement dans nos mouvements, mais aussi quand on travaille avec les puces, avec la machinerie, bon, ben, il faut décortiquer, il faut diviser les mouvements comme je l'ai fait avec Prospérité. Donc, c'est un protocole, ce sont des mouvements qui reviennent toujours un peu, comme je disais, abrutissants.
Et puis, une docile machine.
Une docile, là où l'erreur ne vient pas de la machine, mais vient de l'objet qu'on est en train de traiter, en fait.
Est-ce que vous utilisez toujours le même appareil pour chacune des œuvres ou est-ce qu'il y a une récupération du matériau?
Récupération des connaissances plutôt, ou des librairies. Donc tout ça fonctionne à partir d'une petite puce. Et puis dans lequel il y a beaucoup de travail, mais qu'on ne voit pas. Et puis ce sont des lignes de code qui sont récupérées pièce après pièce, donc je n'ai pas à les retravailler. Donc il y a un système de détection de blobs que j'ai moi-même développé dans cette petite puce qui, dans l'imagerie, en fait, dans l'intelligence visuelle, cette notion-là de blob revient souvent. Et puis ça permet de couvrir un groupe de pixels. Donc il y a ce côté-là qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on voit l'œuvre. Mais donc c'est ça. Tout ce travail-là se fait dans les petites puces. Donc, il faut évidemment trouver le centre du grain de riz, puis sa direction. Et puis pour ça, c'est beaucoup de gestion de pixels qui reviennent dans différents de mes travaux. Sinon, je récupère les connaissances ou le travail qui revient d'une machine à l'autre. Par exemple, les mouvements trois directions X, Y, Z. Je ne sais pas si vous connaissez. Un peu comme les imprimantes, en fait, 3D. Tout ça, c'est repris dans certaines de mes installations. Puis, c'est du travail que je fais une fois, que je n'ai pas à refaire une deuxième fois.
J'ai vu vos collages aux grêleries. Est-ce que, j'imagine qu'émotivement, c'est pas du tout la même approche. La machine, c'est très technique, c'est cérébral. Alors que faire le collage, un côté très manuel et sensuel, si on veut. Comment vous approchez les deux?
Déjà, je dois travailler dans un environnement calme. Il ne doit pas y avoir de stimuli parce que lorsqu'on colle la grainerie tout juste à côté, bon, ben, il faut l'enlever, il faut gratter la colle, puis ça devient un peu... ça devient lourd comme action. Mais je dois me mettre dans un environnement où je me sens à l'aise, où je me sens bien, en fait, puis ça devient méditatif. Donc, c'est des mouvements qui... comme quand on marche, qui devient automatique. En fait, une fois qu'on les a bien développés, puis je me suis inventé des protocoles, donc mettre la colle, essuyer un tout petit peu, me déplacer, utiliser ma deuxième main pour faire un geste. Donc, je trouvais ça, j'étais seul, puis je trouvais ça quand même intéressant de faire ces gestes-là, un peu comme le ferait une imprimante, par exemple. D'ailleurs, j'ai fait une pièce où j'utilise des gouttes de thé pour former une image. Donc, un peu comme le ferait une imprimante à jet d'encre.
Vous aimez vous transformer en machine?
Ben, je crois que dans notre société, on devient des machines. D'une façon ou d'une autre, la bureaucratie, c'est une machine.
Bon, merci.
Vous n'auriez pas le goût, justement, de faire dérailler tout ça?
Ben, au moins, j'aime pointer du doigt ce qui se produit, puis j'espère que mes machines en parlent.
Et c'est bien de susciter un point de vue critique, là, absolument, à travers cette œuvre présentée.
Je pointe du doigt, ben, est-ce que c'est bien, pas bien, je le sais pas, mais je peux dire que parfois c'est lourd, là, mais c'est une bonne question à se poser, je pense.
En terminant, si vous me pardonniez quelques informations sur votre parcours jusqu'à présent, vous êtes un artiste d'art numérique indépendant?
Oui, effectivement, je suis indépendant.
Ben, vous voit souvent dans bien des expositions.
Oui, ben d'ailleurs, c'est ça. Donc, je débute une pratique plus visuelle. Je quitte un peu le terrain des robots tout en gardant l'esprit du protocole. Ça m'intrigue. Puis, je pense que ça va faire évoluer mon travail.
Et quel est votre prochain projet, si ce n'est pas trop demandé? ce n'est pas secret?
En fait, je suis en train de travailler sur une exposition qui va être présentée. Pour le moment, je préfère ne pas en parler. Mais c'est une belle galerie. Et puis, j'ai été étonné de cette invitation-là. Et puis, j'essaie de monter une expo qui a du sens pour moi, puis qui va donner suite à mes expérimentations avec les machines.
Alors, on a bien hâte de savoir quelle est cette mystérieuse exposition à venir. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette œuvre d'art dans le cadre de la 5e Biennale internationale d'art numérique Métamorphose. Merci.
Merci beaucoup.
Et merci à mon collègue Pierre Archambault.
Merci.
Alors, pour poursuivre sur ce spécial consacré à la Biennale internationale d'art numérique qui en est à sa 5e édition, joignons tout d'abord Léna Guillot pour nous parler de son expérience de l'habillant à l'Arsenal et de son œuvre, l'œuvre qu'elle a retenue, celle de Herman Colgun, Life Form, tout à fait représentative de la thématique de la Biennale. Bienvenue, Léna.
Bonjour tout le monde.
Oui, alors tellement ravie de te joindre, Léna. Alors, Léna, tu pourrais parler de ton expérience et de l'œuvre que tu as retenue?
Oui, absolument. D'abord, je vais exprimer encore une fois comment l'exposition dans sa globalité est fascinante. Et puis, moi, le mot que j'ai trouvé pour la cibler, c'est hypnotique.
Ah oui, c'est vrai.
Maintenant, pour l'œuvre que je désire vous en parler un peu plus profondément, Lifeform, qu'est-ce qui m'a sensibilisée à cette œuvre que moi j'ai trouvée extraordinaire? C'est justement parce que ça parle de la vie, puis c'est un sujet qui est primordial pour moi, c'est toujours de soutenir, penser, mettre l'accent sur la vie. Ça nous aide beaucoup des fois à surmonter bien des obstacles quand on réalise, ben c'est la vie qui compte au bout de la ligne. On peut perdre des choses, nanana, mais c'est la vie qui compte. Tant que t'as la vie, tu peux continuer. Mais lui, qu'est-ce que l'artiste nous représente? C'est comme un petit peu l'évolution de la vie quand au début, ce sont des petits objets qui se regroupent, des petites cellules, puis il y a de l'activité, puis... Et il y a aussi la manière qu'il va négocier la délicatesse de ses représentations. C'est tout délicat. Ça fonctionne un petit peu comme quand on voit des gouttes d'eau se rassembler. C'est très délicat. Tout d'un coup, ça colle ensemble puis ça fait quelque chose de nouveau. Puis ce processus-là évolue en image jusqu'à ce qu'on se ramasse avec un beau jeune homme.
Oui.
Et on voit encore là, le jeune homme a sa tête dans la bulle puis ça continue le processus qui ressemble à des gouttes d'eau qui se rassemblent, mais qui rassemblent des différents éléments qui vont faire partie à la fois de l'identité du garçon, mais aussi de comment la vie évolue. Et le film continue encore une fois à évoluer jusqu'à ce qu'on voit sur l'écran plusieurs vies qu'on symbolisait très simplement avec une délicate ligne noire dans des petites bulles qui sont légèrement plus foncées ou plus claires que l'environnement, qui ressemble encore une fois, c'est très liquide son approche.
Oui.
Les petits bonhommes, ils circulent. Et puis toute l'histoire, pour moi, ça l'a tout de suite symbolisé notre vie humaine. Puis lui, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il veut nous parler de la fragilité de la vie.
Oui.
Et puis pour moi, le message est très bien rendu avec un esthétique remarquablement joli. C'est une œuvre que j'ai aimée beaucoup. Mais j'ose pas trop l'appeler un coup de cœur parce que ça voudrait dire que je l'aime au-dessus des autres. Mais c'est pas mal une exposition d'équivalence dans le sens que toutes les œuvres ont quelque chose de remarquable à nous faire vivre. C'est vraiment une exposition. J'espère que les gens qui sont à l'écoute ne vont pas manquer ça.
Non, effectivement. Et ça tombe à point pour le temps des fêtes. Quel beau cadeau s'offrir que d'aller à l'Arsenal, Léna.
Oh, absolument. C'est tellement... Puis en plus, il ne faut pas oublier que quand vous allez faire la visite,
oui.
Je me suis informée un petit peu. Ça prend 1h30 approximativement, si vous prenez bien votre temps dans chaque heure. Mais en plus, il y a du personnel sur le plancher, soit pour répondre à vos questions ou soit pour vous faire des visites guidées qui durent approximativement 30 minutes. Fait que ça peut aider.
Il y a des visites guidées.
Les gens qui sont pas trop familiers avec l'art numérique. Ah, ça, à mieux comprendre ce qu'ils regardent.
Ça, c'est intéressant ce que tu amènes là. Il y a des visites guidées chaque jour?
Oui.
Ah, ben écoute, je pense que ça vaut... Et ça, c'est inclus dans le coût du billet?
Oui.
Ben, ça,
oui.
C'est une...
Sauf bien sûr que vous devez probablement téléphoner ou envoyer un courriel pour vous assurer que vous allez arriver à l'heure de la visite guidée. Mais encore là, il y a le même principe qu'on retrouve souvent au centre-fille. Il y a du personnel sur place pour vous aider à guider. Donc, nous, quand on a fait notre visite de presse, on avait des personnes assez expertes à côté de nous pour nous dire plein d'informations.
Et vulgariser, et on apprécie les œuvres d'autant plus quand on a une présentation, là. Ça prend un tout autre sens.
Des fois, tu regardes quelque chose, t'es pas trop sûr, mais finalement, la personne, elle va te donner de l'info que tu peux avoir de besoin. Mais il faut que je fasse un clin d'œil à l'œuvre de Michel Debrouin, nos grands artistes québécois montréalais. Son œuvre qui combine tellement bien le concept de matérialisation. Son œuvre qui s'appelle Castles Made of Sand, qui est faite en 2015, c'est de la machine qui fait les châteaux.
Oui. Ah, on a perdu Léna. Léna, on a perdu
non,
Léna.
Non, okay. Je suis là. Okay. M'entends-tu?
Oui, allons-y.
Alors, je faisais un clin d'œil à Michel Debrouin pour Castles Made of Sand, que vous allez voir à la Biennale à l'Arsenal. C'est ça. Il a développé un appareil compliqué qui fait des châteaux de sable sans arrêt.
Oui.
Il en fait un, il le détruit, puis là, il recommence à l'autre bout. Mais ce que je trouve impressionnant de cette œuvre-là, c'est la seule œuvre qui transforme la matière par un moyen digital.
Oui.
Alors ça, je trouve que c'est un clin d'œil fascinant. C'est très symbolique aussi de l'œuvre générale de Michel Debrouin qui se sert de n'importe quoi pour faire des œuvres.
C'est très ingénieux.
Toujours fascinante.
Je ne sais pas si c'est je crois que c'est sa première participation à la Bien, mais c'est fort apprécié. Merci beaucoup, Léna, de nous avoir fait ce compte rendu. Léna, on te retrouve avec plaisir pour plusieurs autres chroniques à venir. Merci. Bon samedi. Bonne fin de semaine.
Au revoir.
Au revoir. Alors, ravi de contacter Pierre Archambault, qui va nous faire un compte rendu de cette biennale nommée Métamorphosis. Bienvenue, Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Chantal.
J'espère que ça va bien.
Oui, ça va. Donc, c'est ça, c'est la 5e édition de la Biennale internationale Electra qui se poursuit jusqu'au 2 janvier.
Mm-hmm.
Et le thème est transformation des changements du I Ching qui permet d'élargir la relation entre humanité, nature et technologie. Et la particularité d'Electra, c'est de réunir des artistes à la fois d'ici et d'un peu partout dans le monde qui utilisent des technologies numériques pour les montrer les enjeux de société, soit par une vision poétique ou ludique ou dramatique. Et donc, dans cette exposition, il y a 17 œuvres de 15 artistes et j'en ai sélectionné 6 pour leur qualité à la fois esthétique et conceptuelle.
Merci.
Alors, premièrement, de Turquie, roulement de tambour, Refix Avadal, c'est le titre. Donc, il transforme 1,2 million d'images provenant des stations spatiales, ainsi que 100 millions d'images des villes de New York et de Berlin, en plus de 69 millions d'images de parcs nationaux d'Islande. Tout ça pour concevoir un triptyque qu'il nomme le générateur de la machine à rêver, qui a pour résultat de magnifiques tableaux sur écran où les couleurs bougent doucement et ça crée des formes organiques, texturées, pour un pur plaisir visuel.
Absolument.
De France, Justine Aymar, qui utilise 2 robots de forme humaine qui ont des mouvements qu'aucun humain ne peut articuler. Et les neurones de ces robots-là répondent à des capteurs qui les renseignent sur leur environnement. Et le plus troublant, c'est qu'ils ont des copies de visages humains qui nous incitent vraiment à des sentiments d'affection envers ces deux robots-là. C'est assez troublant.
Très troublant.
L'impression que ça donne.
Oui.
Et maintenant de Chine, le Lu Yang qui a réalisé un avatar dont les expressions faciales sont calquées sur les siennes grâce à une équipe d'animateurs 3D et de techniciens numériques. Et les mouvements du corps sont, eux, générés par les capteurs de mouvements de danseurs. Donc l'avatar va se déplacer sur... Une gigantesque échelle par rapport aux bâtiments qui sont autour de lui. Et ça donne une vision anticipée de ce qu'on pourra vivre dans la réalité dans quelques décennies. Vraiment, il y a des concepteurs américains là, qui sont en train de nous préparer ça et bientôt on verra de véritables avatars se promener dans les rues.
ça pourrait être le cas, oui. On est dans la science-fiction, là.
Ah non, ça va devenir la vraie, la vérité de la vie quotidienne.
Bon.
Garanti. Et maintenant, du Québec, il y a une impressionnante installation où 4 robots humanoïdes, sont couchés comme dans une espèce de salle d'opération. Chacun s'anime par la présence du spectateur. Ils vont s'étirer, se recroqueviller, se disloquer et ça simule la souffrance. Et le tout baigne dans une alternance d'éclairage rouge ou bleu et même de la fumée. Alors, c'est une rencontre de la mécanique et des émotions qui enclenche un anthropomorphisme. C'est vraiment impressionnant.
Quel impact! Et c'est une.
Et aussi, du Québec, il y a Louis-Philippe Rondeau qui lui propose une installation interactive qui se compose d'un anneau lumineux vertical à travers lequel le visiteur traverse en regardant un grand écran horizontal sur lequel la silhouette du spectateur ou du visiteur apparaît déformée selon les mouvements de la personne. Alors, c'est une œuvre très ludique qui joue à la fois sur la perception de nous-mêmes et sur les émotions que ça engendre.
On peut s'amuser longuement avec cette œuvre-là.
C'est très ludique.
Oui.
Et aussi, du Québec, Cady Desbiens-Desmeules, propose, elle, une installation vidéo générative qui montre le rôle de l'intelligence artificielle dans le monde actuel. Elle pirate Instagram pour donner un aperçu de l'activité humaine. Cependant, elle montre aussi comment nos comportements se plient aux influences des hashtags. Alors, il y a des milliers d'images qui forment une espèce de mosaïque qui baigne dans des courants nuageux. L'ensemble est d'une beauté onirique.
Absolument, oui, je suis d'accord.
Alors, ceci n'est qu'un petit aperçu parmi les 17 œuvres sélectionnées de la Biennale Electra, qui regroupe des créations d'artistes qui utilisent donc les technologies actuelles pour nous faire soit réfléchir ou nous induire dans des expériences poétiques ou ludiques. Et c'est présenté à l'Arsenal au 2020 William à Griffintown jusqu'au 2 janvier. On peut calculer, si on lit les cartels et qu'on observe les vidéos, on peut calculer un bon 2 heures, je dirais.
Ah oui, un bon 2 heures. Et toi, Pierre, au niveau de l'ambiance, hein, c'est quelque chose, c'est très une ambiance très immersive.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, on est plongé dans le noir, il y a le son qui nous interpelle, les sens ont tous interpellé.
Tout à fait, oui. Et aussi, je voulais souligner qu'avant d'entrer dans la partie de la Biennale, on peut aussi visiter la collection privée du directeur de l'Arsenal,
oui.
Où là, il y a des peintures, des sculptures d'artistes internationaux. Et le tout pour 20 $ d'admission. Par contre, il y a des prix comme adultes 65 ans et plus, 17,50 pour les enfants, 17,30, ainsi de suite. Alors, voilà.
Alors, Pierre, tu n'as pas mentionné l'œuvre de Michel de Brouin, mais quand même, ça vaut aussi...
Oui, mais j'étais un peu déçu, j'avoue,
parce
que je connais bien son travail antérieur. Là, c'est une immense machine très complexe qui ne fait finalement qui prend un pâté de sable et fait un petit château et ça recommence indéfiniment. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu ennuyant.
Ah oui, bon, mon Dieu, alors, est-ce que... Il me semble que c'est la première fois que je... Une participation de Michel de Brouin, alors...
Dans son travail antérieur, mais là, je trouve cette grande technologie pour aboutir à un petit château de sable. Je ne sais pas, là, il me semble qu'il manque quelque chose.
Oui. Alors, il faut aussi, Pierre, aviser le public qu'il y aura aussi une exposition parallèle qui va commencer bientôt, le 9 décembre, à la Cinémathèque québécoise, salle Norman McLaren. C'est une exposition de Sabrina Raté, House of Skin. Alors, Sabrina Raté, qui est une artiste vedette dans le domaine de l'art numérique, moi, j'y serai. Je vais aller voir ça absolument.
Et pour faire un jeu de mots, il ne faut pas rater.
Et voilà, il ne faut pas rater cette exposition à venir à la Cinémathèque québécoise. Je ne sais pas s'il y aura une ouverture d'exposition, mais on vous tient au courant. Je ne sais pas si tu as pu vérifier si l'Arsenal ferme ses portes durant les fêtes. Je ne croirais pas.
En tout cas, c'est pas indiqué maintenant. Là.
On vérifiera, mais c'est une belle destination pour le temps des fêtes. Il faut aller voir cette exposition-là qui est toujours un ravissement d'édition en édition. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir fait ce compte rendu. Et puis, on se retrouve pour bien d'autres chroniques à venir. Merci. Très belle fin de semaine.
À la prochaine.
À la prochaine.